France Musique. Musicopolis. Le Magnificat de Stanford, une œuvre de réconciliation. Charles Villiers Stanford, ou plus court, Sir Charles, comme l'appelaient ses élèves, est sans doute plus connu de réputation que par sa musique. Réputé comme le plus grand professeur de composition de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et comme l'un des initiateurs de ce qu'on a appelé la renaissance de la musique britannique. Quant à sa musique, elle est d'une grande variété. Il a écrit à peu près dans tous les genres, symphonique, opéra, musique de chambre, mélodie, et en particulier, musique religieuse. Ses premiers essais en la matière datent de ses 16 ans, et il a continué à composer des services, motets et autres anthèmes jusqu'à la fin de sa vie. Justement, son Magnificat latin, opus 164, date de 1918, c'est 66 ans. Les circonstances de la composition de son Magnificat latin ne sont pas du tout joyeuses pour Sir Charles Villiers Stanford. Nous sommes en septembre 1918. Si les armées allemandes n'avancent plus guère, l'armistice n'est pas encore à l'ordre du jour. De nombreux Britanniques sont partis combattre sur le sol français et beaucoup y sont morts. À Londres même, il y a eu de nombreux bombardements. La ville a été la principale cible de la guerre aérienne menée par les Allemands contre la Grande-Bretagne. Sir Charles, ne pouvant plus dormir, à bout de nerfs, a dû, sur le conseil de son médecin, se retirer à Windsor, une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Depuis quelques années, la situation de Stanford est sur son déclin. Pourtant, il a eu droit durant sa carrière à de nombreux honneurs, des prix, des postes enviables, comme professeur au Royal College of Music, comme chef d'orchestre ou directeur de festival. Il a reçu plusieurs doctorats honoris causa de grandes universités du pays. Il a été fait Lord en 1902, à 50 ans tout juste. Et pour vous dire comme il est reconnu à son époque, on lui commande un Gloria pour le couronnement en juin 1911 du roi George V à l'abbaye de Westminster.
Oh,
Malgré tous ces titres de gloire, je vous le disais, la situation de Stanford décline. Et cela à partir des années 1910. C'est que les goûts musicaux sont en train de changer. Dans les concerts, on joue moins sa musique, mais de plus en plus de Strauss, Richard, de Scriabine ou de Schoenberg. Stanford est extrêmement conservateur, c'est une musique qu'il n'aime pas. Et on commence aussi à entendre les œuvres de ses propres élèves, Coleridge Taylor, Vaughan Williams, Gustav Holst, des élèves qui, justement, ont pris des voix qu'il n'apprécie pas beaucoup, trop modernes. Même Elgar, à peine plus jeune que Stanford, est en train de connaître une renommée tardive. Les jeunes chefs en vue, Henry Wood ou Thomas Beecham, choisissent de préférence cette musique moderne plutôt que celle de Stanford. La carrière de chef de Charles Villiers Stanford connaît un ralentissement dans les années 1910, déjà avant la guerre. Certes, il continue à diriger l'orchestre du Royal College of Music, mais bientôt, en raison de la guerre, les productions d'opéra de cette école, qu'il dirigeait chaque année, vont être arrêtées. Voilà qui ne fait pas ses affaires. Depuis qu'il a été engagé comme professeur de composition et de la classe d'orchestre en 1883, il est payé à l'heure. Or, avec moins d'élèves, moins d'heures de cours, ses revenus diminuent d'autant. Stanford et son épouse vont être obligés de déménager pour prendre un appartement moins cher. Des circonstances pas très agréables donc. Mais ne croyez pas pour autant qu'il arrête de composer ou qu'il perde de sa combativité. Alors que son étoile brille de moins en moins, tandis que d'autres se lèvent, Charles Villiers Stanford continue à composer avec ardeur. Juste avant la guerre, il donne son deuxième concerto pour piano, sa septième symphonie, deux rhapsodies irlandaises, son sixième quatuor à cordes et son deuxième quatuor avec piano. Et, comme toujours, des pièces vocales. La guerre n'a pas réduit l'activité de composition de Stanford. Il a toujours été attiré par l'opéra et il a eu beaucoup de succès à la création de son Seamus O'Brien en 1896, mais beaucoup moins avec ses ouvrages suivants. Ça ne l'empêche pas d'en écrire encore deux pendant la guerre. L'un, The Critic, a de bonnes critiques, mais l'autre ne sera pas joué du vivant de Stanford qui n'entendra que l'ouverture. Et puis bien sûr, il compose encore de la musique religieuse. Voici, je vais susciter ce peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas les siennes. Charles Villiers Stanford cherche à exprimer l'horreur que lui inspire la guerre, qui commence au moment où il met en musique ce texte de l'Ancien Testament en 1914. Pendant la durée du conflit, il écrira encore d'autres pièces, notamment lorsqu'il sera réfugié à Windsor en mars 1918. Là, il assiste régulièrement aux vêpres à la chapelle Saint-Georges et il compose tout spécialement à l'attention du chœur « Lighten our darkness »« Éclaire nos ténèbres, je te demande, ô Dieu, et par ta grande miséricorde, défends-nous de tous les périls et dangers de cette nuit. » Composer de la musique religieuse est pour Charles Villiers Stanford une seconde nature. Il a écrit ses premiers anthèmes à l'âge de 16 ans, alors qu'il remplaçait l'organiste de l'église Saint-Stephen, près de chez lui à Dublin, sa ville natale. Puis, arrivant à Cambridge, à l'université, à 18 ans, il a eu de nombreuses occasions d'écrire la musique pour les offices. Bientôt, il va être nommé organiste et chef de chœur du Trinity College, ce qui lui donnera bien sûr moult occasions de composer des pièces pour le service anglican. Ses sources d'inspiration sont de plusieurs sortes. D'un côté, la musique de Bach, le choral luthérien et les motets de Brahms. De l'autre, le pur contrepoint de Palestrina. Dans son court traité de composition à l'usage de ses élèves, Stanford écrit « Les exemples les plus purs et les plus raffinés d'écriture pour les chœurs se trouvent dans Palestrina et l'école romaine. Ce sont les plus gratifiants à chanter et les plus puissants à écouter. » Ceci dit, s'il admire la polyphonie romaine, Stanford a trouvé son propre style, qu'il varie et développe tout au long de sa vie. Dans les écrits sur Charles Villiers Stanford, on trouve pas mal de mentions de son caractère, disons, entier. Non, en fait, un très mauvais caractère. Il avait notamment coutume d'exprimer ses goûts extrêmement conservateurs en musique de manière tout à fait franche. Charles Grove, fondateur du Royal College of Music, écrit de Stanford « C'est sans doute l'esprit du diable qui vit en lui, le rendant parfois méchant, querelleur et contradicteur comme personne d'autre ne peut l'être. » Certes, c'est un homme remarquablement intelligent et capable, plein de ressources et de puissance, mais ses qualités se payent parfois très cher. Avec cette description de la personnalité de Stanford, on se doute bien qu'il a eu parfois quelques problèmes relationnels. Notamment avec Hubert Parry, l'autre grand compositeur et professeur de son époque, homme charmant, d'abord facile et apprécié de tous. Très amis au début, leurs relations se sont détériorées peu à peu après la nomination de Parry comme directeur du Royal College of Music, poste auquel Stanford avait postulé également. Et cela jusqu'à une dispute terrible en 1917.
Oh,
Après la dispute et la rupture qui paraît définitive entre Stanford et Paris, Stanford est très peiné. Il a beau avoir mauvais caractère, il a certainement un bon fond. Il envoie son épouse chez Paris pour tenter une réconciliation, ce qu'elle obtient après longues palabres et négociations. Et les deux hommes se rabibochent finalement, même s'il reste quelques cicatrices de part et d'autre. Ils n'auront pas le temps de les faire disparaître. En octobre 1918, Paris, dont la santé était fragile depuis longtemps, meurt de la grippe espagnole. La mort de Paris est un coup terrible pour Stanford, qui va tout faire pour qu'il soit inhumé à la cathédrale Saint-Paul. Il lui dédie également sa dernière œuvre en date, le Magnificat à 8 voix, qu'il a achevé quelques jours plus tôt. « Cette œuvre, écrit-il en exergue, que la mort m'a empêché de donner à Charles Hubert Hastings Paris vivant, je la dédie à son nom dans le deuil. » Le Magnificat en si bémol majeur opus 164 pour double chœur a cappella de Charles Villiers Stanford, dit aussi Magnificat latin, par le chœur de la cathédrale de Winchester, dirigé par David Hill. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Manuel Couturier pour le mixage, Élise Kravets pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.